Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, hier 12 septembre, nous fêtions le Saint-Nom de Marie, fête instituée par le bienheureux Innocent XI, afin de remercier Notre-Dame d'une des plus grandes victoires des armées chrétiennes sur celle des Turcs. Il s'agit de la victoire du siège de Vienne le 12 septembre 1683, c'était il y a 337 ans. Mais avant toute chose, rappelons que cette date avait été déjà marquée par la protection de Marie. Au XIIIe siècle, dans le midi de la France, l'hérésie manichéenne renaissait sous une nouvelle forme, le catharisme. Le 12 septembre 1213, alors que saint Dominique priait le rosaire, Simon de Montfort, à la tête de l'armée des croisés, écrasé à Muret l'armée albigeoise à 1 contre 40. En 1683, la chrétienté était à nouveau en danger. À l'appel des protestants de Hongrie, une armée de 200 000 Turcs et Tartares, sous la conduite de Kara Mustafa, grand vizir et gendre du sultan, envahit l'Autriche, faisant de grands ravages et exerçant des cruautés inouïes à chaque endroit traversé. En peu de temps, cette armée fut sous les remparts de Vienne, la capitale de l'Empire des Habsbourg, et mit le siège. L'empereur Léopold avait fui sa capitale juste avant leur arrivée. Le sultan voulait, pour détruire la foi catholique, abattre un des derniers bastions qui empêchait ses armées de se porter sur Rome. L'aide de tous les princes catholiques fut sollicitée. La plupart d'entre eux envoya des aides financières. Louis XIV, le roi le plus puissant de l'époque, loin de secourir la chrétienté, souhaitait au contraire le succès des infidèles et lançait au même moment une armée dans les Pays-Bas espagnols pour paralyser et diviser les défenseurs de l'Empire. Il espérait qu'une fois Vienne tombée, tous les impériaux se jetteraient dans ses bras comme ultime recours contre les Turcs. Restait le roi de Pologne, Jean Sobieski. Léopold le pressait de voler au secours de Vienne. Louis XIV de garder la neutralité. Il se laissa fléchir à la voix d'Innocent XI et partit le jour de l'Assomption avec 24 000 hommes à marche forcée. Il se confia tout entier à Notre-Dame. Il faisait d'ailleurs partie de la confrérie du Rosaire. En même temps, on faisait à Rome et dans tout le reste du monde chrétien des prières publiques. On fit surtout des vœux particuliers à Notre-Dame. Tant de prières à une si puissante protectrice ne furent point vaines. Alors que Vienne ne pouvait plus tenir que quelques jours, le roi de Pologne parut le 12 septembre au matin devant la capitale autrichienne. Il assista d'abord avec son armée à la messe qu'il servit lui-même à genoux, les bras en croix, et à laquelle il communia. Puis il arma son fils chevalier et se voua lui et les siens à la Sainte Vierge. Marchons maintenant, s'écria-t-il, sous la protection de la Mère de Dieu, vive Marie ! Et il lança la charge. À 7 heures du soir, les Turcs fuyaient dans le plus grand désordre. Le lendemain, Sobieski se prosternait devant la statue de Notre-Dame de Lorette, offrait son casque et son épée en ex-voto et entonnait lui-même le Te Deum pour remercier le Dieu des victoires. L'Europe était sauvée du croissant musulman, pour un temps, pour un temps. C'est de cette bataille d'ailleurs que date la première confection par les pâtissiers viennois des croissants pour commémorer cette éclatante victoire. Avec la délivrance de Vienne, commençait pour les Turcs une série de défaites qui aboutiront à la ruine de leur empire avant que la franc-maçonnerie ne le ressuscite. Tirons de là deux leçons. Première leçon. L'importance capitale, aux yeux de Dieu, des nations catholiques pour le maintien de la foi, de la grâce de Dieu dans les hommes. A contrario, combien petit est le nombre des âmes en état de grâce aujourd'hui, depuis que tous les États ont apostasié? Tous ont rejeté la royauté de notre Seigneur et celle de sa Sainte Mère. Tous les États sans exception, même celui du Vatican. Oui, même celui du Vatican. Plus personne à Rome ne croit à la nécessité du règne de notre Seigneur. Le pape a même fait supprimer récemment d'un document officiel son titre de vicaire du Christ. La plupart des hommes ont besoin d'être guidés par de bonnes lois, par le bon exemple de ceux qui les gouvernent. Voyez aujourd'hui le nombre de gens qui portent un masque, bien convaincus que cela serve à quelque chose. Mieux vaudrait leur dire de porter la médaille miraculeuse, de réciter leur chapelet, cela aurait une autre efficacité. La conséquence de vivre sous un état athée, apostat, est terrible. Terrible. C'est une malédiction de Dieu. Les âmes tombent en enfer par centaines de millions et dans le monde par milliards. C'est quelque chose d'absolument terrible. Deuxième leçon. Après cette victoire insigne remportée grâce au secours de la Vierge Marie, le bienheureux Innocent XI institua la fête que nous avons commémorée hier, celle du Saint-Nom de Marie. La pensée du pape était, outre de commémorer cette victoire sur les Turcs, était également d'inculquer à tous les fidèles la puissance de ce nom même de Marie. Il faut savoir que chez les anciens, le nom que chacun portait avait une grande importance. Il signifiait pour eux ce que la personne était, sa personnalité ou sa mission. Cette règle est surtout vraie lorsque c'est Dieu lui-même qui se charge de donner un nom. Car les noms qu'il donne sont toujours conformes à la mission, à la dignité qu'il confère. Ainsi, Adam signifie « principe de naissance » et Ève « mère des vivants ». Noms qui ont été donnés par Dieu. Et Dieu leur a donné réellement ses qualités. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, qui signifie « père de nombreuses nations », car il devait devenir le père du peuple élu. Il a changé celui de Jacob en Israël, qui veut dire « fort contre Dieu ». Zacharie reçut par révélation le nom de son fils Jean, c'est-à-dire « grâce de Dieu ». Simon reçut de notre Seigneur le nom de Céphas, qui a la signification de pierre, car il devint la pierre sur laquelle notre Seigneur fonda son Église. Mais surtout, c'est le nom de notre Seigneur qui a été imposé par le ciel. Il résume toute la mission de l'homme-Dieu, car Jésus signifie « Dieu sauve ». Notre Seigneur est bien notre Sauveur, et sa mission sur terre est de nous sauver, de nous racheter du péché. Pour Marie, bien sûr, l'Écriture ne nous dit pas que le nom de Marie ait été donné par Dieu directement ou par une inspiration divine à ses parents. Mais difficile d'imaginer que celle qui tient la place la plus importante, après notre Seigneur, dans le mystère de la rédemption, ait reçu un nom qui ne définit pas ce qu'est sa place dans le plan divin. Saint Alphonse de Ligorie affirme à ce sujet « L'auguste nom de la Mère de Dieu, le nom de Marie, n'est pas d'origine terrestre. Il ne fut pas, comme les autres noms, inventé par l'esprit des hommes. Il ne lui fut pas donné par libre choix, mais descendu du ciel, il lui fut imposé par un décret divin. » Et Saint Alphonse continue « comme l'attestent saint Jérôme, saint Épiphane, saint Antonin et beaucoup d'autres. » Question que nous devons maintenant nous poser. Que signifie ce nom de Marie? Quelle est sa mission? Quelle est sa dignité? Selon l'interprétation de saint Épiphane, saint Euchère, saint Pierre Chrysologue, saint Bède le Vénérable, saint Jean Damascène, le nom de Marie a pour signification « souveraine », interprétation qui est reprise dans la liturgie de saint Basile et dans celle de saint Jean Chrysostome. Il y a d'autres interprétations, mais cette interprétation est une interprétation majeure. Et c'est pourquoi tous les chrétiens appellent la Vierge Marie notre souveraine ou notre dame. Notre dame est bien souveraine. Elle l'est tout d'abord sur le cœur de son Fils, qui est le cœur d'un Dieu. Et ceci parce qu'elle est sa mère, et qu'à ce titre, elle entretient des rapports tout à fait particuliers avec lui et par lui avec toute la Trinité. Le fait d'être la mère, selon la génération humaine, de cet enfant qui possède et la nature divine et la nature humaine, toutes deux unies dans l'unité de la personne divine, fait d'elle, selon toute l'acception des termes, la mère de Dieu. La mère de Dieu. Cette relation tout à fait unique avec la divinité la place dans un ordre bien supérieur à celui de tous les saints et lui donne des droits réels d'autorité sur son Fils, à tel point que notre Seigneur ne peut rien lui refuser. Souveraine, elle est encore par rapport à nous autres, car elle est la mère du Christ tout entier, c'est-à-dire du Christ Sauveur. Notre-Dame n'a pas seulement enfanté notre Seigneur dans son être physique, elle a enfanté tout le corps mystique avec lui. Elle est à plein droit notre mère dans l'ordre de la grâce. Ce droit, elle l'a reçu en devenant la mère de notre Dieu, mais elle l'a aussi conquis en s'unissant tout entière à la mission rédemptrice de son Fils. Les souffrances, les peines qu'elle a endurées pour nous au pied de la croix, et il faut y penser, il faut souvent méditer sur les douleurs de Marie. Dans notre chapelet, ne pas passer à côté de ce que notre mère a souffert pour nous sauver. Son cœur, transpercé d'un glaive si amer de douleur, lui ont donné des droits très réels sur chacun d'entre nous. Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Elle l'a payé très cher. Notre-Dame exerce donc une double souveraineté, et ce nom de Marie lui convient donc parfaitement. Ajoutons cependant qu'elle exerce cette souveraineté sur nous comme une mère, et c'est très justement que le père Kolbe dit que notre Seigneur lui a confié tout l'ordre de la miséricorde. Miséricorde puissante qui s'étend sur chacun de nous, éloignant nos ennemis quand nous la prions, nous ramenons à une vie plus chrétienne quand nous nous en sommes éloignés par le péché, par la tiédeur. Notre-Dame est véritablement notre avocate auprès de son Fils, et nous avons tous besoin de sa médiation, de sa tendre et puissante aide pour ne pas nous égarer dans cette vallée de larmes et de tant de périls, de tant d'occasions de chute. Notre-Dame à protéger les États chrétiens quand ils le méritaient par leurs prières, par leurs lois qui condamnaient le péché. Nous ne pouvons plus en dire autant aujourd'hui. Ce temps est passé. Tâchons de moins de recourir à elle pour être protégés de ces ennemis qui ne tuent pas les corps, du moins pas encore, mais qui cherchent à perdre nos âmes, à les emmener en enfer. Que cette fête du Saint-Nom de Marie que nous fêtions hier nous inculque une confiance absolue dans le Saint-Nom de Marie. Prions-la régulièrement, que ce Saint-Nom de Marie soit sans cesse sur nos lèvres, par de petites prières tout au long de la journée, comme par exemple la prière de la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ou bien cette prière si chère à la petite Jacinthe de Fatima, doux cœur de Marie,
soyez mon salut.
Ou encore cette prière apprise à la sœur Consolata Betrone.
Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes.
Invoquons aussi Marie par la dévotion des trois Ave Maria au lever et au coucher pour garder la pureté pendant le jour et la nuit, pureté si attaquée aujourd'hui. Et surtout, Prions notre chapelet chaque jour. Notre-Dame nous a demandé en de si nombreuses occasions de le réciter. Elle y a enjoint tant de promesses pour ceux qui y seraient fidèles. Et quelle joie de passer du temps pendant son chapelet à méditer sur la vie de Notre-Dame, d'être tout près d'elle, sous sa protection, sous son regard. Douce Vierge Marie, que votre nom soit donc sans cesse sur nos lèvres et plus encore dans nos cœurs, et qu'ainsi vous nous conduisiez à la victoire et aux portes du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.